Voilà, ça fait le tour. Notre invité, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Monsieur Waterhouse, vous êtes salué.
Pareillement, messieurs. Bon matin.
Bon matin. Bon matin. Steve, beaucoup de choses dans l'actualité. La CCQ qui a été hackée. On a-tu des updates là-dessus? Est-ce qu'on sait?
Oui,
vas-y, on t'écoute.
Ben, premièrement, c'est une cyberattaque qui a eu lieu d'intrusion. Ils ont été capables, les malfaisants, d'aller accéder au système d'information de la CCQ. Le groupe cybercriminel russophone est Killin. Killin, ils s'attaquent, eux autres, depuis 2023, un paquet de sites comme ça. Encore une fois, c'est pas ciblé spécifiquement l'organisation. Ils ont détecté qu'il y avait une faiblesse, ils l'ont exploité, ils sont rentrés et présentement, la CCQ est en train de rebâtir les systèmes comme la majorité des gens ont eu cette information-là jusqu'à présent. Mais chose intéressante, par exemple, dans cet incident-là, la CCQ a joué la carte de l'ouverture, autrement dit, tu sais, qu'ils ont été capables de démontrer qu'ils, ben voici ouvertement, voici où ce qu'on en est, ça s'est arrivé, puis périodiquement, ils ont été capables de faire des mises à jour. Et ça, c'est à tout à l'honneur de l'organisation. Puis j'étais même en mesure de m'entretenir avec des gens de l'organisation qui m'ont sollicité, puis m'ont dit, regarde, on va te donner des mises à jour aussi particulières. Fait que, tu sais, sur une entrevue que j'avais donnée en Outaouais, ben on se questionnait, les backups, tu sais, sont-ils corrects, pas corrects, comme qui est arrivé dans d'autres cas. Eux autres, dans le cas, oui, parfait, tout est correct. Ils sont juste en train de les valider, puis après ça, ils vont les recommettre, puis ça va reprendre progressivement.
Bien là, sur le site de la CCQ, on dit que les services vont reprendre à partir du 8 septembre. Donc, c'est mardi prochain. Mais ça aurait été long. Là, on parle de quoi? D'une fermeture de service de 2 semaines, à peu près?
Bien, c'est pas grave. Moi, je vous dis, la STM, quand ça lui est arrivé, eux autres, en 2018, me semble, 2017, bien, ça a pris 6 semaines. Fait que juste pour faire des comparaisons, on s'améliore. Moi, je peux dire, en tout cas, il avait appris parce que quand il est arrivé l'incident en 2023 avec le Green Shield, qui est le fournisseur pour toute la télémédecine, la médecine en général, là, pour les cotisants, bien, eux autres, c'est une plateforme d'échange d'informations, mais qui avait hébergé les informations de la CCQ, qui avait été compromise, et là, après ça, l'information, elle a fui. Mais, tu sais, c'est pas directement la faute de la CCQ, puis ça, je tiens à le préciser, mais pareil, ça vient une deuxième fois que les données des ceux qui contribuent à la CCQ.
Bien là, il y a des gars qui nous écrivent. Il y a des gens qui nous écrivent. Dis-moi, je suis un entrepreneur en construction. Là, il arrive quoi avec mes données? Je suis obligé de changer. Je suis à risque. Qu'est-ce que je fais?
Bien, comme n'importe quelle fuite de données, on peut en reparler le reste de l'avant-midi. Quelle autre fuite de données qu'on a eue, qu'on a subie, nous, comme citoyens, tu sais, contributeurs, et que. Qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est qu'on va se faire solliciter par les criminels qui vont s'en servir à des fins de fraude éventuellement. Les pourriels, les messages textes pas corrects, les appels, les faux appels téléphoniques, etc. Ça fait partie du décor, malheureusement. On ne peut pas y échapper.
Non, c'est ça.
Et comme j'ai dit aux gens de la CCQ, ils disent pas que vous allez offrir une protection de dossier de crédit. C'est faux. Depuis l'incident Desjardins, depuis février 2021, on est chanceux au Québec. On a droit à verrouiller notre dossier de crédit gratuitement. Et ça, si ce n'est pas déjà fait, messieurs, dames, allez faire ça.
Comment on fait ça concrètement?
En allant sur le site de Equifax, exemple.
On a un compte. Moi, j'ai un compte d'Equifax, là, mettons. Là.
Mettons qu'on n'a pas de compte, là, parce qu'on l'a eu tous, la majorité, ceux qui ont été pris dans l'affaire Desjardins en 2019, on a tous eu ce compte-là pendant 5 ans. Mais c'est pas grave. On n'a pas obligé d'avoir un compte payant pour avoir ce compte-là chez Equifax. Donc, c'est de créer un compte avec des informations minimales. Et après ça, on peut dire, je verrouille mon dossier de crédit.
Donc, tu as une petite coche à cocher. Puis si, mettons, tu veux changer de voiture en location ou en achat, puis tu vas refaire du financement, tu redécoches un peu avant, c'est ça?
Parce qu'ils vont te regarder, ils vont dire, regarde, on ne peut pas aller regarder ton dossier de crédit. Il est barré. Tu peux-tu le débarrer? C'est normal. Mais ça prend pas de temps non plus. Il y en a qui vont dire, ça prend 48 heures. Peut-être. Des fois, il y a des délais dans le système. Eux autres, là, c'est pas clair comment est-ce qu'ils travaillent. Mais ça peut être donné ça comme délai. Mais soyez avisés. T'sais, si vous allez, comme vous dites, si vous pensez aller faire un achat prochainement, débarrez-le, puis ça va être facile pour les marchands, les commerçants d'aller vérifier. Mais sinon, gardez-les barrés. Parce qu'avec tous ces éléments-là qu'on dit de fuite d'informations, de crimes qui arrivent comme ça, par rapport à l'identité, etc., ben, c'est la première mesure, je dirais, pour dormir correctement le soir.
On fait ça même affaire avec TransUnion?
Je ne l'ai pas effectué, fait que je ne peux pas te certifier la procédure, comment est-ce qu'elle fonctionne, mais en principe, ça devrait être la même accessibilité, oui.
Pourquoi les Russes nous ciblent? Je comprends qu'on donne de l'argent en Ukraine, c'est ça?
Je peux te citer des groupes de cybercriminels de partout dans le monde. Les Russes sont forts parce qu'il n'y a pas d'extradition judiciaire possible,
Est-ce que les hackers russes travaillent avec l'État russe? Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est ça, là.
Parfois. Parce que, comme on a vu, puis pour me donner un exemple concret, quand est arrivée l'invasion de la Russie vers l'Ukraine en février 2022, ben il y a beaucoup de groupes cybercriminels qui ont levé la main et ont dit « Nous, on soutient l'action du gouvernement russe. » Puis là, ils ont commencé à faire des cyberattaques, puis sont venus ici au Canada visiter la luminerie Alouette à Sept-Îles, Bridgetown aux États-Unis et au Canada, puis d'autres places comme ça. Fait que des fois, ça leur donne, l'État russe, une raison non officielle de mener des cyberactions.
Ouais, okay.
Mais s'ils se font pogner, les Russes reviennent d'abord et ils disent « c'est pas nous autres, là, on les connaît pas, tu sais, ils jouent l'innocent. » Mais ça fait la même affaire avec les Chinois, ça fait la même affaire avec la Corée du Nord. Je veux dire, tout le monde, tout le monde. La majorité des gouvernements qui sont malfaisants, ils vont chercher des mercenaires comme ça. Ils font faire la job sale.
Des sous-traitants, ouais, c'est ça.
Et voilà, merci.
TransUnion, il y a des auditeurs qui nous disent « Oui, on peut le faire, mais il faut appeler. »
Bon, voilà.
Voilà. L'Iran aussi attaque beaucoup, là. J'ai vu des attaques au Canada, aux États-Unis. Ça aussi, là, faut être conscient de ça.
Et je recule deux pas en arrière pour dire tout simplement, le contexte géopolitique a une influence sur ces types d'attaques-là. La semaine dernière, puis même quand j'ai dénoncé l'usine de traitement des eaux à Saint-Noël qui a été visitée, puis l'autre à Toronto. Puis c'est drôle, la municipalité de Halton ont dit non, nous autres, il n'y a rien arrivé. Christy, j'ai un rapport de police à l'appui. Puis j'ai les preuves qui ont été dans le système de traitement des eaux.
Puis les autres disaient qu'il n'y avait rien.
Ben non, ils ont plaidé que non, tout est correct. Ben je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce jeu-là. Mais anyway, ça, c'est les affaires. Et il reste toujours bien, c'est aux États-Unis. Ben, ça a été justement des groupes russophones, iraniens, c'est-à-dire qui sont allés faire des visites dans pas moins de 41 usines.
De traitement des eaux.
De traitement des
eaux. Imagines-tu si on réussit à empoisonner du monde?
Bien, c'était ça l'enjeu. Fait que là, les États-Unis, là, moi, ce que j'aime de ce temps-ci, là, c'est que quand je regarde ces situations-là, nous autres, on va faire des études, on va en parler, on va débattre. Cinq ans plus tard, il n'y a rien fait. Aux États-Unis, ni un ni deux, le projet Watershed 250 au Texas, l'entreprise privée, l'entrepreneuriat privé, le gouvernement fédéral et de l'État du Texas, ils font cette initiative-là de dire, regardez, on se met ensemble, on fait un projet, puis on va faire en sorte qu'on va donner des ressources techniques, matérielles et humaines à tous ces opérateurs de traitement des eaux.
Okay.
Et on va s'assurer que c'est sécurisé, gratuitement. Ici, là, avant qu'on ait ce genre d'initiative-là,
on oublie ça.
Les poules vont être des dents.
Non. Mais ici, ça se peut-tu qu'on se pense qu'on est comme à l'abri de tout? Là? Et on dirait que... Toi, tu nous parles de ça, mais moi, j'ai l'impression qu'on parle de ça... Tu parles de ça entre amis, puis les gens disent « Tu d'un truc de Tom Clancy? » Il n'y a pas de Russes ou d'Iraniens qui font... Je pense qu'on est comme un peu dans une genre de naïveté qui va nous confiner peut-être à la bêtise. Là.
Des arcs-en-ciel et des unicornes.
C'est ça. Ça va bien aller.
Des licornes.
Malheureusement. Les unicornes, c'est en anglais, excuse-moi. Licornes, t'as raison. Fait que là, tu sais, on est encore dans cet état d'esprit-là parce que là, les gens, là, ils n'y arrivent jamais à rien. Bien, gardons ça. Avec les menaces économiques américaines, puis là, tout d'un coup, il y a des choses, trucs à l'international qui viennent nous chatouiller à mauvaise place.
Ouais.
Là, je crois que collectivement, il y a un éveil qui va se faire. Bien, j'espère, en tout cas, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est impossible. Je le dis, puis on en parle souvent ensemble ici, la façon qu'on amène la transformation numérique, puis en passant, je fais cette parenthèse-là, ça n'a pas d'allure. Il y a un nouveau service au gouvernement fédéral sur la transformation numérique qui est là pour aider à adopter les nouvelles pratiques de transformation numérique. Écoute, il y a déjà trois ministères qui sont à l'œuvre de faire ça, viennent en créer un nouvel organisme, puis là, ils sont dédiés à faire de la transformation numérique. Ah, d'accord, celle-là, mais j'ai tombé à mon chaise quand j'ai lu ça, je me suis fait mal même.
Tu es même qui font à Rivecan qui sont là-dedans?
C'est un peu ça en arrière-plan qui m'a animé aussi, mais les services numériques gouvernementaux sont déjà eux autres à l'œuvre de faire ce travail-là. Puis là, tu as une autre gang de fonctionnaires qui vont être engagés pour faire ça.
Ce matin, le Patrick Pichette qui a été nommé à la tête de ça. Là. Ça, c'est l'ancien gars de Google qui, lui, veut faire entrer de l'immigration à full pin au Canada.
Bien, pourtant l'immigration, mais ils veulent faire beaucoup d'automatisation avec de l'IA qui n'a toujours pas de paramètres.
Non, mais il était au congrès du Parti libéral, là, il y a quelques mois, là, puis il parlait de l'immigration massive au Canada, là.
Parti libéral, le fait déjà.
Et lui, il habite Londres. Là. Il habite à Londres. Là. Non, c'est spécial. Il se passe des choses spéciales, Steve, au sein de ce gouvernement-là. Écoute, je veux t'entendre rapidement là-dessus. Les constructeurs américains de voitures ont demandé au Congrès de bannir les voitures chinoises pour les vendre sur le territoire américain. Nous autres, on fait rentrer des chars chinois. Là. Ça s'en vient. On va avoir 49 000 voitures chinoises qui vont rentrer. On est-tu, on vit-tu encore là sur un monde à part, sur une île? Ou...
Oui, parce que, puis m'a cité la Pologne, l'Israël, qu'eux autres aussi, ils ont mené les évaluations de la menace et des risques. OK, là, peut-être, il y en a qui vont dire, bah, on sait bien, les Américains ne veulent pas la compétition chinoise sur leur propre territoire envers leurs propres producteurs de véhicules. Oui, ça, c'est vrai, il y a sûrement cette raison-là derrière. Mais d'un côté technique qui me concerne, bien, je peux vous dire, la Pologne, ils ont dit... Aucune voiture chinoise n'ira sur des sites gouvernementaux. Il y a trop de risques d'espionnage. Okay. Israël, même affaire. Puis pourtant, c'est, à bon sens, me semble, j'ai déjà vu 35 à 40 % des véhicules qui sont dans ce coin-là du monde, en Israël, bien, c'est d'origine chinoise. Fait que déjà là, ils travaillent pas juste avec l'hypothétique. Ils le vivent sur le terrain, puis sont capables de le mesurer. Alors, c'est comme ça que nous autres, ici, on débarque ça à grand coup de trail, puis on va mener ça sur le marché parce que ça satisfait le besoin des gens d'avoir une voiture électrique à bas prix. Ouais. Mais... tous les produits, puis je mets tout ça, les caméras Hikvision, les téléphones Huawei, ZTE, toutes les technologies chinoises, ils ont toujours une deuxième agenda cachée derrière. Puis ça a été vu encore récemment. La marine britannique, ils avaient acheté eux autres, ils s'étaient dit, hey, on va se faire des drones pour faire des attaques en mer, au moins faire de la reconnaissance, etc. Mm-hmm. Mais le drone, il y avait des composants chinois, puis qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Bien, ils appelaient à Shanghai, puis ils rapportaient qu'est-ce qu'il avait fait le drone dans la journée. Si ça, c'est pas des problèmes de sécurité de l'opération, je ne sais pas c'est quoi. Mais déjà là, quand il n'y a pas de vérification où provient la pièce, autrement dit, la chaîne d'approvisionnement, c'est là qu'il y a des problèmes après coup. Qui s'en dégage. Fait que oui, les voitures devraient faire l'objet de cette évaluation-là, mais les problèmes économiques et les préoccupations économiques supplantent souvent la sécurité qu'on s'attend que le gouvernement va faire. Mais le gouvernement ne le fait pas pour faire plaisir aux gens pour avoir des votes.
Mais ça se peut que ça soit eu, ça a eu un impact ça, sur les négociations, les tarifs entre les Américains et les États-Unis. On n'entend rien, là.
Je ne l'ai pas entendu, celle-là, par exemple.
Mais là, tu vois, les fabricants d'auto, ils donnent l'exemple du Canada, là. Parce qu'il y avait des tarifs de 100 % mais pour les 49 000 premiers, il y a des tarifs de 6 % seulement.
Ah, ça, c'est intéressant.
Donc là, tu vois, là, ils veulent pas... En tout cas, regarde, ça peut être un élément de friction. Toi, tu nous dis,
oui.
Faites attention, il y a de l'espionnage. Je sais pas si tu as vu aussi Hydro-Québec qui autorise dans les panneaux solaires. En tout cas, il y a beaucoup de technologies chinoises. Les Américains viennent de le bannir. L'Union européenne vient de le bannir. Puis au Canada, on continue.
Hey, ça m'a pris 10 minutes faire une évaluation d'impact. Qu'est-ce que c'est d'avoir des composants chinois dans ces produits-là qui vont être offerts ici au Québec par Hydro-Québec? Je veux dire, c'est rouge à grandeur de la page.
Ben, c'est rouge.
Ben
c'est
oui.
Rouge, c'est...
Ouais, rouge en disant que c'est quelque
warning.
Chose de pas correct. Ben oui, parce que le danger là-dedans, c'est un peu comme les grandes grues. Il me semble qu'on a parlé aussi. Les grues sur les ports, sur la côte ouest, là, autant aux États-Unis qu'ici au Canada, ben, qui ont des modems chinois à l'intérieur. Ça a été prouvé que...
Ils peuvent tous savoir ce qui rentre, là.
Ils pourraient, ben, attends un peu, ils peuvent aussi l'arrêter, la crucifix de grues, là. Fait que ça a même en fait les panneaux solaires, c'est pas les panneaux physiquement qui captent la lumière qui sont à risque, c'est les éléments de contrôle sur la transition énergétique que ça va faire. Alors, les États-Unis, comme tu dis, ils en ont pris connaissance, ils en ont pris conscience, puis après ça, ici, ben, encore une fois, on est une société ouverte, puis tout est beau.
Les Américains permettaient la vente jusqu'à tout récemment, là, ils viennent d'envoyer un mémo de c'est fini.
Oui,
ici,
oui, c'est
au Canada,
une directive présidentielle, là, un peu. Là.
Oui.
C'est la Maison-Blanche qui ont mis le poing sur la table et ont dit non, attends un peu, là, tout ce qui est production primaire électrique, puis ça, en passant, ça fait longtemps qu'il aurait dû le réaliser parce qu'il y a 17 ans, me semble, 16 ans, il y a eu une étude sur l'émanation, les attaques par électromagnétisme. Autrement dit, soit le soleil qui il génère un champ électromagnétique surplombant puis que ça met à terre un peu comme l'effet Carrington de 1887, me semble c'est 1887, et que tous les télégraphes avaient feu avaient pris là-dedans. Ou au Québec, quand on a eu ça en mars ou mai 89, me semble, que ça avait justement arrêté l'électricité pendant une dizaine d'heures, bien, ils ont dit, si jamais ça arrive au plus grave des scénarios, est-ce que ça on est capable de s'en sortir? Bien, produire un transformateur de mégawatts à la fois, qui fait ça à cette heure? Bien, c'est seulement en Chine. Fait que la chaîne d'approvisionnement, elle est, côté production électrique et distribution électrique, elle est à risque de cette nature-là. C'est ça qui a motivé les Américains. Puis dans l'étude que je disais, de 16-17 ans, bien, ça avait été identifié. Bien, ça a pris tout ce temps-là avant que là, il y ait une action concrète, politique, que là, ils disent, OK, c'est parfait, on reprend la production de ces composants essentiels ici, en Amérique du Nord. Et j'espère que nous aussi, de manière, on va se greffer à ça, parce que demain matin, pour desservir une ville au complet, ces transfos-là, bien, on va être obligé d'attendre des années avant qu'on puisse en avoir, parce qu'on va être sur une liste à quelque part, puis ça va venir de Chine encore une fois. Fait que c'est des éléments comme ça, là, je te dis, de conscience
mais toi,
collective
qui arrive. En une minute, là, parce que là, on doit se quitter, Steve. Mais,
déjà.
Et toi, est-ce que les gouvernements t'approchent? Est-ce que tes consultants, tu leur dis-tu de faire attention? C'est-tu des choses que t'entends? Ou bien c'est on prêche dans le désert, puis à un moment donné, on va se ramasser avec des problèmes...
Je dois te dire que je prêche encore dans le désert parce que je parle avec certaines personnes encore au gouvernement fédéral, provincial, puis tout le monde est poli, tout le monde dit « OK, oui, j'entends et je reçois », mais je ne perçois pas d'action concrète à ce moment-ci. Puis d'ailleurs, dans la présente campagne politique provinciale...
Il n'y a rien, hein?
J'ai pas entendu parler zéro cybersécurité, surtout avec l'action de l'usine de traitement des eaux de Saint-Noël.
Ben, Hydro-Québec, Hydro-Québec, c'est une société d'État, puis ils ramassent avec des produits chinois.
Mais j'ai pas entendu de plan. Aucun parti
de dire,
on va faire... Ben, ils l'ont l'information, là. C'est juste que ça fait pas partie des priorités.
Trump, c'est Trump qui fait peur, c'est pas les Chinois. Merci, Steve. À la prochaine.
Bon week-end. Salut.
Voilà. Merci. Steve Waterhouse, expert cybersécurité.
Très bon.
Il dit. Je presse. Dans le désert, avec la Chine, qui tous les produits qui
rentrent. Ils sont dépassés, ils ont dit qu'ils comprennent rien.
Nos politicos?
Ben oui.
Hey, Carney qui ouvre la porte aux Chinois, tous les chars. Hey, penses-tu que l'autre bord, ça n'a pas steppé up, là? Les Américains, ils voient ça aller. Voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'as pas le mémo?
Ah non, c'est ça.
Voilà. Hey, après la pause, comment on monte un plan marketing autour d'un politicien? On en jase avec Luc Dupont, on revient.
Couture.
Oui.
Dans le mid.
On revient dans pas long.
Radio X.